إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sommes arrivés au chapitre où le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit: rechercher le secours ou invoquer un autre qu'Allah est une forme de polythéisme. Le nom de ce chapitre, rechercher le secours ou invoquer un autre qu'Allah est une forme de polythéisme, c'est-à-dire une forme de polythéisme majeur. Et l'adjonction de l'expression invoquer un autre qu'Allah après l'expression rechercher le secours est une adjonction du général au particulier. En effet, la demande de secours est un type d'invocation car c'est une requête. Or, la requête est une adoration. Donc en arabe, on appelle ça l'istiratha, la demande de secours. Et l'istiratha, donc, c'est le fait de demander le secours, la demande de secours qui émane d'une personne en situation de difficulté et d'affliction et qui craint de grands préjudices à son égard, voire même la mort. On dit donc d'une personne qu'elle en secourt une autre lorsque la première se porte au secours de la seconde, l'aide à se sortir de sa difficulté et l'en sauve. L'istiratha est donc la demande de secours. C'est une forme de polythéisme majeur si elle est formulée envers une créature pour des choses que seul Allah peut réaliser. En revanche, si elle est formulée pour une chose que la créature peut réaliser, alors elle est permise, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le récit de Moussa alayhi salam, dans le sens du verset, l'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Puis il a dit dans le titre, ou invoquer un autre qu'Allah. L'invocation, c'est l'adoration. Or, l'invocation est de deux types. Premièrement, l'invocation de demande, qui désigne une invocation comportant demande et requête adressée à Allah Azza wa Jal. C'est donc lorsque l'on lève les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on l'invoque. C'est ce type d'invocation que l'on nomme invocation de demande. Et c'est ce même type qui est désigné par le terme invocation, du'a, chez le commun des musulmans. Deuxièmement, l'invocation d'adoration. L'invocation de ibad, d'adoration. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. C'est-à-dire, n'adorez donc personne avec Allah et ne demandez rien à personne avec Allah. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation, c'est l'adoration même. Et il existe une différence entre ces deux notions. Car on peut citer comme invocation d'adoration, par exemple, une personne qui prie ou donne l'aumône. Ainsi, toutes les catégories d'adoration peuvent être nommées invocation. Et même invocation d'adoration. Par conséquent, cette explication ou subdivision est très importante pour comprendre les preuves avancées par les savants. En effet, les fabulateurs et les défenseurs du polythéisme expliquent le verset précité en le restreignant à l'invocation. Or, il n'y a pas d'indépendance entre l'invocation de demande et celle d'adoration. La première n'est autre que la seconde, que ce soit par induction ou par implication. Car l'invocation de demande est une des catégories de l'adoration. Et l'invocation d'adoration implique que l'on demande à Allah l'acceptation de notre adoration. Donc les invocations d'adoration, comme la salat et toutes les adorations que l'on peut faire, on les fait en espérant qu'Allah accepte nos adorations. Donc on lui demande, en réalité, on lui demande l'acceptation de nos actes. Mais c'est une demande qui est formulée par des adorations, non pas formulée avec la langue directement, comme l'invocation de demande. Mais les deux sont une invocation, que ce soit l'invocation de demande ou l'invocation d'adoration. Puis le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a cité plusieurs preuves pour appuyer le nom de ce chapitre. Il a cité comme première preuve la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Dans le sens du verset dans sourate Yunus, versets 106 et 107, dans le sens des versets, et n'invoque pas en dehors d'Allah ceux qui ne peuvent te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala interdit d'invoquer autre que lui. S'il en est ainsi, elle englobe alors toutes les catégories d'invocation, qu'elles soient de demande ou d'adoration. C'est une des raisons pour laquelle le Cheikh a mentionné ce verset. Celui-ci indique l'interdiction faite à quiconque de se diriger vers moindre qu'Allah tabaraka wa ta'ala au moyen de l'invocation de demande ou d'adoration. Cette interdiction revêt d'ailleurs une importance toute particulière du fait qu'elle est adressée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le guide des pieux et des monothéistes. Donc dans sa parole, quand Allah ta'ala dit « en dehors d'Allah », cela englobe le fait d'invoquer autre qu'Allah en plus de lui, mais aussi en dehors de lui de manière indépendante. Ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Le terme « ce » ici englobe les êtres doués de raison comme les anges, les messagers, les prophètes, mais aussi ceux qui en sont dépourvus comme les statues, les arbres et les rochers. Allah Ta'ala dit donc à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la suite du verset, et si tu le fais, c'est-à-dire si tu invoques un quelconque être en dehors d'Allah, cet être étant caractérisé par son incapacité à apporter un bienfait ou une nuisance, tu seras alors, c'est-à-dire en raison de cette invocation, du nombre des injustes. L'injustice citée ici désigne le polythéisme. Par conséquent, dans l'éventualité où il commettrait un acte de polythéisme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah a parfait le tawhid, serait du nombre des injustes et des polythéistes. Mais loin de nous cette pensée. Cela implique que toute personne de moindre degré que lui, qui n'est pas infaillible, et à qui l'infaillibilité n'a pas été octroyée, se doit d'éprouver une peur plus grande et une crainte plus forte à l'égard du polythéisme. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné la règle générale concernant l'invocation d'un autre que lui, qui coupe les liens du polythéisme attaché au cœur en disant « Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. » En effet, si Allah tabaraka wa ta'ala te touche par un mal, qui donc le dissipera? Ne le dissipera que celui qui l'a prédestiné et décrété à ton égard. Ceci empêche donc toute orientation vers autre qu'Allah azza wa jal. Néanmoins, le législateur a toléré que l'on demande à un être vivant et présent de réaliser une chose qui entre dans ses capacités, qu'il s'agisse d'attirer un bien ou de repousser un mal. En effet, Allah Ta'ala a fait de cet être vivant une cause qui peut dissiper le mal par sa volonté, mais véritablement celui qui dissipe le mal n'est autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Et quand Allah Ta'ala dit un mal, le mal cité ici est un nom indéfini dans un contexte conditionnel. Par conséquent, selon les règles de la grammaire arabe, cela englobe tous les types de mots, qu'ils soient religieux, matériels, corporels, financiers, familiaux, etc. Puis, le cheikh a cité la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ. Recherchez auprès d'Allah votre subsistance et adorez-le. Dans la sourate, l'araignée, verset 17. Allah Tabaraka wa Ta'ala ici, quand il dit recherchez auprès d'Allah votre subsistance, عِنْدَ اللَّهِ, il a devancé le complément circonstanciel auprès. Il a été mis en avant, pourquoi? Car en langue arabe, comme disent les spécialistes de la langue arabe, si un mot est placé en premier alors qu'il devrait se trouver après, cela implique l'exclusivité. C'est-à-dire, je recherchais auprès d'Allah seul votre subsistance. Le terme subsistance, ici, il englobe toute chose qu'Allah peut donner ou dont il peut priver autrui. Ce mot englobe donc des concepts comme la santé, le salut, les biens, puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et adorez-le, afin d'englober tous les types de demandes, comme l'invocation de demandes et celle de l'adoration. Puis le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a cité la parole d'Allah ta'ala comme preuve dans surat al-Ahqaf, verset 5. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. L'argument du verset est que le verbe invoquer en dehors d'Allah des morts sans vie a été taxé du pire des égarements. La preuve que ce sont les morts qui sont désignés ici, et non pas les statues, les rochers et les arbres, vient du fait que l'incapacité de réponse sera effective jusqu'au jour de la résurrection. Et ceci concerne les morts, car ils seront ramenés à la vie le jour de la résurrection, et pourront donc entendre et répondre. De plus, le pronom « celui » Man s'applique aux créatures qui possèdent la connaissance, qui sont des êtres humains, qui parlent et à qui l'on parle, qui apprennent et de qui on peut apprendre. Puis le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, cite un quatrième verset. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ. Dans sourate An-Naml, les fourmis, verset 62. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens des versets, « N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal ?» Ce verset indique que la réponse à l'invocation de l'angoissé, l'invocation de demande, appartient à Allah seul. Et qui enlève le mal ? Donc la demande de dissipation du mal se fait tantôt par l'istirasa et tantôt par d'autres moyens. Dans la suite du verset, quand Allah ta'ala dit, y a-t-il donc une divinité avec Allah ? A ilahum ma'allah ? Ceci est une question réprobatrice, à savoir qu'Allah réprouve le fait que les polythéistes prennent d'autres divinités avec lui. Mais comment ce polythéisme se produit-il ? En invoquant un autre qu'Allah ou en se dirigeant vers un autre que lui pour dissiper les maux pour des choses que seul Allah est capable de réaliser. Et à la fin du verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens des versets, c'est rare que vous vous rappeliez. Puis le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, cite un hadith en disant, Al-Tabarani rapporte, selon sa chaîne de rapporteurs, il y avait un hypocrite du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui causait du tort aux croyants. Certains d'entre eux dirent, allons donc demander secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam contre cet hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ce n'est pas à moi que l'on demande secours, c'est à Allah. Ce hadith rapporté par At-Tabarani, les savants ont dit que sa chaîne de transmission était faible. Il a été rapporté aussi dans une autre version de l'imam Ahmed, par l'imam Ahmed, dans lequel cette personne qui a dit on va demander le secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela aurait été Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. mais les chaînes de transmission sont faibles. Il faut savoir qu'il y a certains hadiths dont certains savants ont jugé leur chaîne de transmission faible, ou ils ont jugé le hadith comme faible, qui peuvent servir comme appui et non pas comme argument principal. Et ceci, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a rétorqué al-Bakri quand celui-ci a dit que ce hadith était faible. Il lui a rétorqué que il y a plusieurs preuves authentiques du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent l'interdiction de demander le secours à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce hadith n'est cité que comme quand les savants citent, après avoir cité les preuves essentielles, des hadiths mursala, des marasil, c'est-à-dire quand un tabi'i dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ou alors, quand certains savants, après avoir cité les preuves du Coran et de la Sunna, citent les paroles de certains compagnons ou de certains savants de l'islam. Donc, de même, il est permis de citer comme appui, pour venir appuyer le même sens que ce qui a été cité dans des textes authentiques, des hadiths pour lesquels il y a une certaine faiblesse dans leur chaîne de transmission, mais pas n'importe quel hadith dans lesquels il y a des faiblesses. Les savants savent lesquels. Et d'ailleurs, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab était un connaisseur du hadith et il a su quel hadith il pouvait utiliser pour cela et il n'a pas utilisé n'importe lequel. Donc ce hadith où Abu Bakr al-Siddiq, comme il a été rapporté, mais on n'est pas sûr de la version car elle n'est pas authentifiée, où certains compagnons ont dit « Allons demander secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam contre cet hypocrite. » Donc cet hypocrite nuisait aux croyants. Cette demande des compagnons qui a été formulée au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une demande illicite. Car ils n'ont pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam secours sur une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas capable de faire. Il avait le pouvoir, c'est lui le dirigeant de Médine, il peut très bien ordonner de le faire emprisonner, de le faire châtier, même de le faire tuer ou autre, ou de l'exiler. Donc ils ne sont pas venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam une chose qu'il n'était pas capable de réaliser de son vivant. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu fermer toutes les portes qui peuvent mener plus tard au polythéisme. Et il a voulu enseigner aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté les règles de bienséance quant à la parole utilisée. Même dans la parole, on utilise des paroles qui vont dans le sens du tawhid. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Ce n'est pas à moi que l'on demande secours, c'est à Allah. » Donc quand il a vu l'apparition d'un certain penchant de la part de ses compagnons à demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam une chose qu'il était capable de réaliser, il leur a répondu cette réponse. C'est pourquoi il leur a expliqué qu'ils devaient d'abord chercher le secours d'Allah dans un premier temps. Enfin, tout ce qui peut être déduit de ce hadith a déjà été déduit des versets précédents. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.